Première règle du bon usage de l'histoire simple et brutale, savoir que le passé est là.
Les Tudors et la naissance de l'anglicanisme.
Le pape refuse de vous reconnaître chef de l'Église d'Angleterre. Il vous déclare déchu. Paul III a ajouté verbalement, cet Henri VIII est à pendre comme un goret.
La tradition protestante, nourrie de l'expérience de la Bible, attribue à chacun des Tudors un rôle tiré du répertoire du Premier Testament. Henri VIII, on vient de l'entendre, c'est l'équivalent des rois d'Israël, libérateur du peuple élu pour les Anglicans. Sa fille Marie, une autre Jézabel, idolâtre et assassine. Mais l'anglicanisme ne s'est pas levé d'un bloc porteur des nouvelles tables de la loi. Il est la résultante d'un climat réformateur, d'une part, et d'autre part, d'une série de circonstances liées au mariage malheureux d'Henri VIII et de Catherine d'Aragon. Ne pouvant obtenir de Rome l'annulation qu'il demandait, le roi choisit d'autonomiser l'Église d'Angleterre en se portant à sa tête. C'était un schisme, mais au milieu du XVIe siècle encore, il n'était pas irréparable. La constitution d'une confession anglicane avec son livre de prière, sa liturgie, son credo propre ne se fit que plus tard, sous les enfants d'Henri VIII, Édouard VI, dans la Bible Josias, le roi enfant, et Élisabeth, sa demi-sœur, qu'il est d'usage de comparer à Déborah, la grande inspirée du livre des Juges. Mais là encore, il faut raison garder, l'anglicanisme c'est une voie moyenne, issue des aléas du moment, plus qu'une voie prophétique. Il est tout fait d'empirisme et de particularisme, vertu bien anglaise.
La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun.
Liliane Cretté, bonjour.
Bonjour.
Grande spécialiste de l'histoire religieuse anglaise, deux livres récemment sur les Tudors, l'un chez Flammarion, au format de poche, et puis l'autre c'est un beau livre, aux éditions du Chêne. Vous avez du mal avec les livres très calibrés, je ne sais pas comment vous allez faire avec nous.
Oui, c'est dur, parce que tout était calibré, y compris les légendes, chacune différemment.
Enfin, vous avez une bonne formation pour la marche de l'histoire, là.
Exactement.
Il était une fois, on va commencer en parlant des débuts d'Henri VIII. 1509, c'est son arrivée sur le trône. Un roi plein d'avantages qui régnait sur un pays de 2 millions et quelques d'habitants, situé presque aux confins de l'Europe, et qui jouait la balance entre la France et l'Espagne.
C'est ça qui lui a permis de s'agrandir. D'ailleurs, c'était sa politique de base. Il était trop petit, il avait quoi, cette petite île, l'Écosse était des adversaires, mais il avait le pays de Galles. Bon, c'est quand même petit. Et la seule manière pour lui de survivre, de s'agrandir, de devenir puissant, de devenir à l'égal d'un François Ier ou d'un Charles Quint, c'était de jouer la balance. Quand il y en a un qui avait l'air de dominer, on allait aider l'autre. Et il a fait ça toute sa vie. Et Élisabeth a continué.
Alors, Catherine d'Aragon, la femme numéro un d'Henri VIII, elle est le produit de l'alliance espagnole, de la politique de balance avec les Espagnols. C'est la fille des souverains catholiques. 1524, Henri VIII et Catherine prennent leur distance et il veut faire annuler le mariage. À Rome siège la sainte Rote qui s'occupe des annulations de mariage et qui dit non, pas possible.
Alors, il faut voir une raison. Parce qu'ils l'ont fait souvent. Vous savez, le pape, c'était politique, hein, faut bien dire. Donc, ses intérêts là n'était pas du tout d'aider le roi d'Angleterre. Il venait, quand les envoyés d'Henri VIII sont arrivés pour lui demander d'annuler le premier mariage, il venait d'être envahi par les troupes de Charles Quint.
Le sac de Rome.
Le sac de Rome. Donc, il n'avait qu'une idée, surtout, c'est de ne pas fâcher Charles Quint. Or, Charles Quint était le neveu de Catherine d'Aragon. Vous voyez la situation.
Le pape Clément VII n'est pas en position de délier l'alliance espagnole.
Donc, il a dit non. Et après, de son côté, Henri VIII a envoyé encore d'autres hauts personnages anglais, théologiens et autres, pour discuter avec le pape. Rien n'eut à faire.
Il faut dire que a surgi à la cour, venue de la cour de France, une jeune femme qui s'appelle Anne Boleyn, qui n'est peut-être pas tout de suite la maîtresse, mais qui est d'abord la favorite, et qu'on entend ici, dans un dialogue restitué par la série Les Tudors, parler avec Henri VIII et lui fournir de l'argumentation. Vous aimez bien, vous, les séries télévisées ?
Ouf, j'ai trouvé beaucoup de bêtises. Mais des choses splendides. Hein. Oui. D'abord, c'était splendide. J'ai été gênée aussi par Henri VIII, qui était grand et un peu gros. Et bon, l'acteur ne correspondait pas du tout.
Oui, mais ça, on ne le verra pas mince et flexible. On l'entendra seulement.
Voilà.
Je suis convoqué à Rome pour comparaître devant le pape et lui rendre des comptes. Pouvez-vous concevoir cela, moi, le roi d'Angleterre, qui n'ai de compte à rendre qu'à Dieu ?
Je sais de bonne source que certains se contrefichent de la papauté. Ces auteurs affirment que le roi est à la fois l'empereur et le pape en maître absolu dans son royaume.
Quels auteurs ?
J'ai un ouvrage à vous montrer.
Montrez-le-moi.
Cette croyance selon laquelle le pape et le clergé auraient une autorité séparée est contraire aux Écritures. Le roi est le représentant de Dieu sur terre et sa loi est la loi de Dieu. Le souverain doit répondre de ses actes devant Dieu seul et l'obéissance de ses sujets est une obéissance ordonnée par Dieu. Que l'Église et le pape gouvernent les princes d'Europe est une honte qui dépasse toutes les hontes, mais plus grave, c'est une inversion de l'ordre divin. Un roi et une loi au nom de Dieu dans chaque royaume. Ce volume semble écrit pour moi et pour tous les rois.
Quels auteurs critiques de Rome circulent-ils en Angleterre ? Parce qu'il faut faire la part des circonstances matrimoniales et la part du climat réformateur, auquel d'ailleurs la jeune Anne Boleyn appartient peut-être.
Oui, parce qu'elle était à nouveau prise dans ses écritures qu'elle avait découvertes et s'est rendue compte très vite que l'Église romaine ne correspondait pas du tout avec l'Église du Christ.
Vous dites ça comme en chair, là, Liliane Cretté. Mais en fait, là, il s'agit d'opérer un glissement. Alors, et il faut faire glisser de la question de l'annulation le problème à un autre niveau et remplacer la juridiction du pape par la juridiction du roi.
Voilà. Alors pour ça, justement, ses conseillers, Cromwell entre autres, ont ressorti...
Cromwell, Thomas. Hein.
Oui, Thomas.
Ils s'appellent
oui,
tous Thomas, les gens de l'entourage.
Et ils ont ressorti un décret, un vieux décret, qui on appelle ça le décret de prématuré, dans lequel les souverains sont souverains chez eux et ne doivent jamais faire appel, quel qu'il soit, à une cour ou à un personnage étranger. Donc, ils ne dépendaient pas du pape. Ils avaient le droit eux-mêmes de décider. À la suite de ça, ça a permis au roi d'organiser... Toujours par Cromwell, hein. Cromwell et Cranmer étaient derrière, mais là, surtout Cromwell.
Alors Cromwell, Thomas, homme politique, voilà. Cranmer, Thomas, théologien.
Théologien et homme politique aussi. Et d'organiser ce qu'on a appelé le Reformation Parliament, qui a siégé pendant, je crois, de 6 ans, je crois.
Donc à partir de la fin des années
1520. Voilà, pour décider comment on peut faire annuler le mariage du roi avec Catherine d'Aragon, afin que le roi puisse se remarier et avoir des enfants,
Boleyn.
Enfants mâles.
Oui, mais
voilà.
Si on fait intervenir les parlementaires, c'est aussi qu'il y a des questions matérielles. Le roi s'est aperçu que les revenus de la couronne sont inférieurs à ceux de l'Église. Ne voudrait-il pas capter un peu les revenus de l'Église ?
Ce n'est pas pour ça qu'il a fait ça. Uniquement se séparer. C'était une obsession, il l'appelle la grande affaire, on dit la grande affaire d'Henri VIII.
Alors la grande affaire,
Great Matters, donc c'est vraiment dans les textes anglais.
Elle va avancer quand l'archevêque de Canterbury mourra. C'est fort profitable à Anne Boleyn. Il était hostile, l'archevêque, à l'annulation du mariage. Anne Boleyn devient vraiment la maîtresse d'Henri VIII. Elle tombe enceinte. Il faut faire très vite pour légitimer l'enfant qui va venir. Et à Rome, Clément VII, le pape Médicis, vient d'être remplacé par Paul III, le pape Farnèse, le pape de la contre-réforme.
Qu'est-ce donc que ce ruban papal scellé de plomb qui sent Paul III à plein nez et qui pend sous votre défroque ?
Vous devinez tout, sire. C'est en effet la bulle de Paul III contre vous. Regimini militantis ecclesiae. Le pape vous déclare déchu.
Hein ?
Imperium regi abrogare. Oui, déchu de la couronne pour avoir fomenté le schisme entre les églises à votre profit et placé votre puissance temporelle au-dessus de sa puissance spirituelle. Il interdit aux catholiques anglais de payer dîmes et impôts à votre couronne. In perpetuum consequatur deiectis hominis.
Tu charlatan de Dieu! Fini le pape. Enfin libre. Libre avec toi, mon Dieu. Avec toi, mon Christ. Plus personne entre nous. Moi, nommé par le Parlement, chef et protecteur de l'Église d'Angleterre. Toi, roi du ciel. Et la mort par le feu pour tous ceux qui essaieront de nous empêcher de nous joindre. Moi et toi.
Alors là, il y a des verres qui claquent et des tables qu'on frappe. C'est pas les Tudors, c'est, d'après Victor Hugo, un film d'Abel Gance et Michel Deray. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Michel Deray. Non, mais il avait la silhouette, lui, dans les
Oui, non, je ne me souviens pas du tout.
Mais ça, c'est assez vraisemblable, ce qu'on vient d'entendre. Non, non plus.
Non.
Je me demande bien si on va trouver un extrait qui va être à votre convenance, Liliane Crotet.
Ah oui, même la série, il y avait des choses qui étaient très justes. Les amours, par exemple, de
Henri VIII. Oui, mais on a dit qu'on parlait de l'anglicanisme.
Ah, oui, on parle de l'anglicanisme. Qui s'appelait d'ailleurs pas anglicanisme avant les Stuarts.
Alors donc, là,
on disait l'Église d'Angleterre.
À l'époque de la fin d'Henri VIII... Mmh. Il est chef de l'Église d'Angleterre, ça veut dire qu'il est pape en son royaume.
Tout à fait. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il a droit de statuer même sur les questions théologiques.
Mais vous trouvez ça normal, vous ? C'est pour une protestante,
c'est
normal que les pouvoirs du pape passent à un pouvoir collégial, mais à un roi ?
Parce que en tant que réformée, moi je suis plutôt pour une, comme vous disiez, nous avons une autre organisation qui était l'organisation presbytérienne, alors que l'Église d'Angleterre c'est différent. Mais théologiquement parlant, avec tous les décrets qu'ils ont pris dans un sens et dans un autre, Henri VIII n'a pas arrêté de faire deux pas en avant, un pas en arrière. Et il est mort quand même en protestant. Mais... chaque fois, il faut s'en rendre compte, et c'est là où il y a eu l'histoire de Thomas More.
Parce que Thomas More contestait, alors, il était chancelier du roi, il contestait non pas l'autorité matérielle du chef de l'Église d'Angleterre, mais une autorité spirituelle. Pourquoi l'aurait-il ?
Alors, il a accepté de reconnaître qu'il était maintenant le chef de l'Église. Mais il n'a pas accepté qu'il puisse statuer sur des questions spirituelles.
Et donc, Henri VIII l'a dégommé et fait exécuter. Le fait d'être chef de l'Église d'Angleterre et de mourir en protestant, ça ne l'empêche pas de renforcer la législation contre les hérésies. Lui, il n'est que schismatique et les hérétiques, il peut les brûler.
Alors, les
étriper, les découper.
Les découper et...
et étriper.
Et étriper, ce sont les traîtres.
Ah!
Pas du tout pareil. Chaque catégorie a son propre, sa propre mort.
Mais enfin, il n'était quand même pas indulgent avec les hérétiques.
Non, c'était surtout les anabaptistes. Parce qu'il faut dire que l'anabaptisme a amené en Allemagne des révolutions sanglantes. Et alors, ils avaient du coup partout une réputation abominable.
L'anabaptiste, c'est celui qui attend d'être adulte pour
savoir
il doit adhérer.
Mais en même temps, en Allemagne, ils disaient qu'ils allaient instaurer le royaume de Dieu sur terre maintenant. D'où les émeutes sanglantes qui a eu des persécutions, d'où la répression en Angleterre.
Luther était très hostile aux anabaptistes. Luther recommandait la Bible en allemand. Un mot de la pratique de la Bible sous Henri VIII en anglais.
Alors là, ça a été extraordinaire. Parce que il y avait William Tyndale qui l'avait voulu, et comme à ce moment-là, il n'arrivait pas à la faire traduire, il s'était traduit à l'étranger. Et il disait qu'il fallait mettre la Bible entre toutes les mains, y compris les femmes d'un milieu social pas trop haut, et les ceux qui tirent la charrue, comment dit-on,
les paysans,
laboureurs.
Les laboureurs. Lui-même, Henri VIII, lisait la Bible.
Ah, mais Henri VIII a fait de la théologie toute sa vie.
Et vous dites aussi qu'il a fait de la musique, mais on n'a pas choisi de musique composée par Henri VIII pour passer à la seconde moitié du siècle, quand l'anglicanisme va commencer vraiment à s'affirmer. Mmh. Voici un compositeur de cette époque, le grand William Byrd, né en 1543, à peu près au moment où va disparaître Henri VIII. Prudemment, comme il a fait des œuvres à orientation catholique, d'autres à orientation anglicane, on a choisi une œuvre profane.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Liliane Cretté, au moment où se tient au musée du Luxembourg à Paris une exposition sur le portrait sous les Tudors, nous parlons des Tudors et de la naissance de l'anglicanisme. Je vous renvoie à la série qu'aime bien parfois Liliane Cretté sur les Tudors pour parler des femmes. Henri VIII, 1, 2, 3, 4, 5, 6. De la seconde, il ne sera plus question. Elle a été décapitée, Anne Boleyn. De la troisième, à peine. C'est d'elle que naît Édouard VI qui va remplacer Henri VIII. Et là, il se passe des choses fondamentales pour la constitution de ce qu'on appellera l'anglicanisme. Josias, le roi enfant, 8 ans. C'est un grand roi de la Bible. Et Édouard VI, c'est un grand roi pour les anglicans.
Alors, Édouard VI a reçu une éducation carrément protestante. Parce que les érudits que son père avait mis près de lui pour en faire un futur roi étaient tous acquis à la réforme. Donc, lui-même l'a voulu. Et c'est sous son règne que l'on a fait venir, par exemple, des réformateurs de du continent.
Qui vont formaliser le livre des prières.
Voilà, parce que exactement. Et à ce moment-là, alors qu'avant, vous aviez un espèce de... Par exemple, pour les sacrements, ça va. Vous en aviez... Luther en avait gardé 3. Après, maintenant, dans la réforme, c'est 2. Et lui, Henri VIII, a valsé entre 3 et 7.
Et alors là, on va fixer à combien? 2 chez les anglicans?
Alors, dans les fameux 38 articles, qui sont devenus 39 d'ailleurs, que l'on trouve partout si ça vous intéresse,
il y en a 2. Le baptême et la scène et la communion.
Voilà. Et le baptême donné aux enfants, donc pas du tout d'anabaptisme.
C'est sous Édouard VI que les statues des... Saints descendent des colonnes des églises, non? Et que la liturgie est transformée. La liturgie, elle est en latin, elle est en anglais dans ces années.
Oui, tout 1550. Est en anglais. Ah oui, avec. Avant, non, mais c'était en anglais. Il fallait que toute personne qui rentrait dans une église pour. C'était le prêche qui était devenu le point central. D'où l'importance de la chaire, généralement, dans une église protestante. Il venait pour écouter la parole. Le reste était auxiliaire, si vous voulez.
À la mort prématurée d'Édouard VI, 1553, la situation est compliquée parce qu'il y a 2 demi-légitimités. Marie Tudor, c'est la fille d'Henri VIII et de l'épouse numéro 1, Elle avait été déclarée bâtarde quand Catherine d'Aragon, l'épouse numéro 1, avait été éloignée. Vous suivez bien, hein?
Oui.
Elisabeth, ah ben vous, je sais, c'est même vous qui nous précédez, Liliane Crottet, mais les auditeurs. Elisabeth, c'est la fille d'Henri VIII. Et d'Anne Boleyn, l'épouse numéro 2. Et Elisabeth avait été déclarée bâtarde après l'exécution d'Anne Boleyn. Finalement, Marie va l'emporter, fait valoir ses droits auprès de l'aristocratie, obtient la couronne, et elle va même, toujours Alliance France, Alliance Espagne, épouser de loin quand même le roi d'Espagne, Philippe II, qui va venir en Angleterre.
Elle le voulait à tout prix. Elle était très espagnole, très aragon, elle le disait, elle détestait le peuple anglais, elle détestait tout ce qui était anglais. Donc, et tout ce qui était protestant. Et Philippe II, ça lui a semblé le parti idéal.
Je crains que vous ne la détestiez vous aussi.
Non, non, pas du tout, la pauvre. Elle a une enfance si malheureuse, ça peut pas excuser.
Aimez-vous le film de Trevor Nunn, dont voici un extrait.
Les voilà mes dignes prêtres, qui avaient été injustement emprisonnés par les soldats de mon père. Mais par la grâce de Dieu et au nom de son fils Jésus-Christ, ils ne sont plus aujourd'hui prisonniers, car nul ne sera plus jeté en prison si d'un cœur juste et honnête il abjure toute hérésie et choisit d'observer la vraie religion.
Par ordre de leur très gracieuse majesté, la reine Mary et le roi Philippe, nous sommes assemblés pour livrer au bûcher et voir brûler ces hérétiques protestants qui ont nié l'autorité de l'Église catholique et de sa sainteté le pape. Qu'on les mette à mort et qu'ils brûlent pour l'éternité dans les flammes de l'enfer.
Je veux dire, Liliane Crottet, l'anglicanisme, enfin, qui n'existe pas encore vraiment officiellement, est né dans des circonstances si temporelles et si matérielles que ça lui a quand même donné une sacrée légitimité surnaturelle que la multiplication des bûchers et des martyrs sous Marie la Sanglante.
Ouais. Alors, Marie a eu le tort, elle était fanatique, mais pas Philippe.
D'Espagne.
Pas son mari, on accusait, c'est parce que c'est le mariage espagnol, etc. Mais Philippe II et son père, Charles Quint, qui est quand même le plus remarquable des souverains de cette époque, s'est rendu compte que plus elle poursuivait, pourchassait, brûlait des protestants, ou des hérétiques, comme il disait, plus le peuple anglais se mettait à détester les Espagnols. Persuadé que ça venait d'eux, ce qui était faux. Au contraire, ils ont essayé de la calmer, et on a des papiers là-dessus, et de le dire qu'il ne fallait pas qu'elle fasse ça, sinon ils avaient un tel point peur, les Espagnols avaient tellement peur que Philippe soit assassiné, que quand il est venu pour le mariage, où il a été d'ailleurs reçu sur la pointe des pieds, et il avait emmené son cuisinier, tellement il avait peur d'être empoisonné, et ses serviteurs, soi-disant, c'étaient tous des soldats.
Mais revenons, si vous le voulez bien, au langage des protestants. On dit que c'est le langage de Canaan.
Tout à fait.
Parce qu'ils tirent tout le temps des exemples de la Bible. Donc, Marie Tudor, c'est Jézabel.
Ah, c'est Jézabel, oui.
C'est-à-dire ?
Eh ben, Jézabel a été la femme du roi Akaz, elle était idolâtre. Et donc, elle avait mis des statues et des trucs pour ses dieux à elle. Et ça encore, ça pouvait passer, si on peut dire, mais elle a fait tuer tous les prophètes d'Israël.
Ouais.
Alors, en fait, il en restait quelques-uns. Mais enfin, dans les textes bibliques...
Mais elle n'a pas été fénestrée au bout du bout.
Oh, je me souviens.
Si, il me semble. C'est vous qui prêchez, Lilian.
Oui, mais je ne me souviens pas de
comment
elle
a fini. Quant
à Elisabeth, très mal, en tout
qui en 1558 trouve... enfin sa place sur le trône, c'est Déborah, c'est beaucoup plus positif. Allez, un dernier extrait, c'est une valse d'auteurs et de réalisateurs qu'on vous propose. Shekhar Kapoor. Shekhar Kapoor.
Ah oui, ça me dit quelque chose.
Hein, d'origine indienne.
Voilà.
Un film, deux films, peut-être
oui.
Bientôt trois sur Elisabeth.
Je suis persuadée que le mieux serait d'avoir une seule église d'Angleterre. Avec un livre de prière commun et un même objet. Nous entendons que vous promulguiez cet acte d'uniformité.
Madame, par cet acte, vous nous forciez à abjurer notre allégeance envers sa sainteté.
Oui. Comment vous forcerais-je, monseigneur? Je suis une femme. Je ne désire nullement percer des fenêtres dans l'âme des hommes. La question que je pose est celle-ci. Est-ce qu'un homme peut servir sincèrement de maître en étant loyal envers l'un comme envers l'autre?
C'est de l'hérésie!
Ce sont des paroles hérétiques!
Non, cela n'a rien d'hérétique. C'est le simple bon sens, monseigneur, la plus anglaise de nos vertus.
Les messeigneurs, les évêques, ils avaient été ballottés par les zigzags d'Henri VIII, par le retour au catholicisme de Marie Tudor, Cranmer, Thomas Cranmer, qui avait...
Il avait été
nommé archevêque de Canterbury, avait fini brûlé. Alors là, ils vont trouver une stabilisation à l'époque d'Élisabeth.
Tout à fait. Elle a été extraordinaire. Son caractère est un peu aussi comme son père, capricieux, surtout à la fin de sa vie. Mais ça a été une très grande reine pour aussi une raison, c'est qu'elle a su s'appuyer sur William Cecil, qui était comme elle, protestant mais modéré, et tous les deux se sont rendus compte qu'il fallait une seule religion. Sinon, c'était n'importe quoi. D'où, ils ont essayé de mettre au pas les puritains qui voulaient revenir à l'église primitive.
La semaine prochaine, avec notre maître Bernard Cottret, nous parlerons des puritains
Exactement.
Et de la révolution anglaise. Mais n'anticipons pas. L'écriture, c'est l'autorité suprême.
Absolument. Tout le monde lisait la Bible et tout le monde la connaissait. Et dès l'enfance...
Mais est-ce qu'elle est luthérienne, calviniste? Non,
non.
Elle est sur une voie moyenne qui est particulière.
Vous parlez de la Bible
d'Élisabeth.
Ou de... Ah, Élisabeth.
Ah bah non, je ne voudrais pas parler de la Bible. Non.
Bon, Élisabeth était fondamentalement protestante. Et d'où les articles qu'elle tenait beaucoup à ce que ça soit. Mais elle voulait la pompe de l'ancienne Église. Donc c'est ça. La personnalité, on peut dire, de l'anglicanisme qui viendra donc plus tard, c'est fondamentalement des articles, tous les articles, les fameux 39 articles,
sont
protestants, y compris là, et on trouve dedans la prédestination qu'elle avait gardée. Alors,
mais la liturgie alors?
La liturgie, elle voulait la liturgie catholique.
Enfin, c'est-à-dire catholique. Que les beautés de
les
la
beautés.
Liturgie pouvaient avoir un rôle de conviction, peut-être pas autant que les Écritures, mais si quand même.
C'était pas pour ça qu'elle le faisait, c'était parce qu'elle aimait la beauté. C'est pour la beauté, elle était très... elle était reine, mais elle voulait avoir l'air reine en plus de ça. Vous ne laissez pas la reine du Danemark aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Elle était là comme un... elle était un caractère particulier, elle le savait et elle le voulait.
Je vous laisse la responsabilité de vos comparaisons, je vous renvoie à l'exposition sur les portraits des Tudors au musée du Luxembourg.
Non, mais je veux dire, c'était une grande reine, mais elle voulait l'apparat, et l'apparat pour la royauté et pour l'Église.
Et à vos deux livres, chez Flammarion et au Chêne, mais comme disait sa vieille adversaire Marie Stuart, le théâtre du monde est plus vaste que le royaume d'Angleterre, mais l'anglicanisme est maintenant présent dans 160 pays du monde avec 70 millions de confessants. L'émission a été réalisée par Jacques Sigal avec Mehdi Fatah à la technique et la préparation. C'était Martin Cellier.